généralement le ton des langues, ou encore parler en langue. Certaines églises, dont l'Église catholique, se voient actuellement confrontées avec le problème que représente un mouvement charismatique qui aurait tendance à se développer au sein même de leurs assemblées. L'histoire de la glossolalie fournit avec abondance et clarté la preuve que le fait de parler en langue était loin d'être uniquement réservé aux adorateurs de Dieu et aux disciples de son Fils. J. Ben stipule entre autres que les langues extatiques qui étaient pratiquées dans l'ancienne Grèce durant le culte de Dionysos et des Sibylles, prêtresses légendaires d'Apollon. Les païens grecs prétendaient parler en langue au même titre qu'ils pratiquaient la divination, la prophétie démoniaque et l'utilisation des noms et des lettres magiques destinés à conjurer la colère des dieux et des esprits. Sainte Hildegarde, morte en 1179 de notre ère, prétendait pouvoir parler une langue inconnue qui, plus tard, selon Baringold, se révéla être un amusant mélange de mots latins, allemands et hébreux. Certaines langues inintelligibles vont également se retrouver plus tard parmi les paysans huguenots dans le midi de la France aux alentours de 1690. Les jansénistes, eux aussi, en 1734, parlaient, croyaient-ils, des langues qu'ils ne connaissaient pas. Et même les montanistes s'y étaient adonnés avec passion. De nos jours, les mormons, les pentecôtistes, les néo-pentecôtistes, certains musulmans, les chicaires et autres sectes religieuses en sont les fervents partisans. Alors qu'en est-il exactement de ces langues étranges, de ces gloussements et autres étranges sons discordants? Pourquoi ne tentons-nous pas ensemble de faire le point sur ce fameux don des langues qui fait tant de bruit et remue tant de conscience sincère? La puissance miraculeuse du Saint-Esprit permettait aux premiers chrétiens d'accomplir de grandes et importantes œuvres. L'une des plus merveilleuses d'entre elles permit aux apôtres de parler en langue le jour de la Pentecôte. Le livre des Actes, chapitre 2, et versets 1 à 11, relate cet événement. Et une partie de ce texte dit, « Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Il s'agissait d'un grand miracle. En faire autant aujourd'hui sans l'intervention de l'Esprit-Saint est tout aussi miraculeux que ce fameux jour de la Pentecôte, car parler en langue est tout aussi impossible de nos jours qu'il y a plus de 1900 ans. Et que signifie exactement l'expression « parler en d'autres langues » ? Un examen approfondi du texte ne devrait laisser planer aucun doute en ce qui concerne la signification biblique et le but de cette faculté de pouvoir parler en d'autres langues. Le livre des Actes, chapitre 2, versets 6 et 8, indique clairement que la multitude fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue et conclut même comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun dans notre langue maternelle. Dans ce texte, parler en langue ne signifie pas parler une langue inconnue de tous, mais indique plutôt qu'il s'agit d'un pouvoir donné par le Saint-Esprit permettant de s'exprimer dans un langage connu et compris par ses interlocuteurs tout en étant ignoré de celui qui l'utilise. En d'autres termes, une langue qu'il ne possède pas et qu'il n'a jamais parlé auparavant. Le même texte biblique révèle qu'au moins 15 pays se trouvaient représentés dans l'auditoire qui avait écouté les apôtres parler en langue, mais que cela n'empêchait nullement chacun de les entendre parler dans son propre dialecte et dans sa propre langue. Ces gens les comprenaient, par conséquent, dans au moins 15 langues différentes. Tout ceci est absolument fantastique lorsque l'on considère que ces disciples, d'humble extraction pour la plupart, n'avaient certainement jamais entendu parler ces langues étranges et lointaines auparavant. Les voilà qui s'expriment maintenant couramment et qui semblent les posséder à la perfection puisque chacun des groupes ethniques et des pays représentés dans l'audience s'émerveille. Ils ne prononcent pas ça et là qui une phrase hachée qui a un mot plus ou moins bien prononcé. Non, non. Chaque langue est au contraire utilisée avec naturel, voire avec élégance, comme il s'agissait d'une langue maternelle. Ce qui est produit par ce miracle ne peut après tout être le meilleur en son genre. et cet extraordinaire miracle de parler en langue que les apôtres avaient provoque l'ébahissement et l'émerveillement de la multitude. Les disciples de Jésus prêchent l'évangile à plus de 3000 personnes réunies et appartenant à au moins 15 nations distinctes. Et chacun les entendait parler dans sa propre langue, la langue avec laquelle il avait grandi. Il ne s'agit donc pas d'un jargon, d'un ensemble de sons ressemblant vaguement à une langue ou encore à un baragouinage quelconque, loin de là, puisque ce que les apôtres proclament ainsi est exprimé avec tant de flamme, tant de conviction, qu'après avoir entendu ce discours, nous dit la Bible, ils eurent le cœur vivement touché. Il existe de très nombreuses personnes, et même quelques dirigeants religieux pour qui la question de parler en langue représente un problème. Certains ne vont jusqu'à prétendre pouvoir s'exprimer dans des langues inconnues. De toute évidence, l'homme moderne ne peut parler en langue comme au premier siècle. Où peut-on en effet trouver un homme ou une femme capable de parler 15 langues différentes qui lui étaient totalement inconnues quelques instants plus tôt? Ne serait-il pas fantastique de voir comme au jour de la Pentecôte, quelqu'un prêcher l'évangile à une audience représentant 15 nationalités différentes et de constater que chacune est capable de comprendre la prédication dans sa propre langue maternelle? Ne serait-ce pas un miracle en tout point semblable à celui effectué par les apôtres le jour de la Pentecôte de l'an 1 de notre ère? S'il existe des gens capables de le faire, pourquoi n'irait-il pas, par exemple, prêcher l'Évangile durant une réunion internationale ou mieux encore devant l'Assemblée des Nations Unies? Si quelqu'un était nanti par le Saint-Esprit du pouvoir de parler en langue, il pourrait même arriver à parler à tous les hommes sans distinction de race et de nationalité, et chacun le comprendrait aisément. Il n'est pas déraisonnable d'envisager une semblable réunion. Si une telle personne existait, ne pensez-vous pas qu'un prodige de ce genre dans le domaine des communications intéresserait au plus haut point les savants du monde entier? Il ne fait aucun doute que chaque station de radio ou même de télévision lui ouvrirait alors toutes grandes les portes de ses studios et que la proclamation de la bonne nouvelle au monde entier ne rencontrerait plus alors aucun obstacle. On irait même jusqu'à payer pour entendre prêcher l'évangile de Jésus. Quel monde fabuleux ce serait que celui où toutes les radios et toutes les télévisions annonceraient le merveilleux amour de Dieu. Le baptême du Saint-Esprit était la source de puissance miraculeuse qui permettait aux apôtres de parler en d'autres langues. Le livre des Actes nous dit qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Les prénoms personnels « il » et « leur » désignent les apôtres comme indiqué dans le dernier verset du premier chapitre des Actes. Par conséquent, ce sont bien les apôtres qui étaient nantis de la puissance que conférait le baptême du Saint-Esprit. Ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer, déclare le verset en question. Le Saint-Esprit semble prendre des précautions pour éviter toute erreur de personne lorsqu'il parle dans le verset 3 d'Acte 2. Des langues semblables à des langues de feu, séparées les unes des autres, se posèrent sur chacun d'eux, c'est-à-dire sur les apôtres. Nous pouvons donc conclure que chaque apôtre parlant miraculeusement avait été spécifiquement désigné par une flamme, comme une langue de feu qui s'était posée sur lui. Cela avait fait accourir la multitude et l'avait confondu. Le fait que ce phénomène était arrivé seulement aux apôtres et que seuls parlaient en langue est encore accentué par la contre-réaction du public s'écriant « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens ?» Or, tous les apôtres étaient bien galiléens, tandis que les 120 disciples également présents provenaient de régions les plus variées. Actes chapitre 2 et verset 4 dit, souvenons-nous-en, ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. On peut donc affirmer que les apôtres étaient tous remplis du Saint-Esprit avant de pouvoir parler en d'autres langues. De plus, ils ne parlèrent que selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Le Saint-Esprit leur donne non seulement le moyen de parler des langues étrangères, mais également la matière, les mots, les idées exprimées dans la prédication. Existe-t-il aujourd'hui une seule personne spécialement désignée, identifiée même par le Saint-Esprit, à l'aide d'une langue de feu séparée des autres, descendant sur sa tête, pour parler en d'autres langues? Où se trouvent de nos jours les personnes qui savent parler en d'autres langues, c'est-à-dire utilisant des langages dont elles n'ont jamais eu connaissance auparavant et prêchant un message qui leur est absolument étranger, selon que l'Esprit leur donne de s'exprimer. Dites-moi, en connaissez-vous? Les dons spirituels étaient distribués soit par le baptême du Saint-Esprit, comme nous l'avons déjà vu, soit par l'imposition des mains des apôtres. Il n'existe que deux exemples de baptême du Saint-Esprit dans le Nouveau Testament. Les apôtres l'ont reçu le jour de la Pentecôte, lors de l'établissement de l'Église, ainsi que Corneille et ceux qui étaient présents dans sa maison. Ce dernier cas constitue une exception flagrante, car il était destiné à faire comprendre aux assistants que l'Évangile s'adressait aux gentils, c'est-à-dire aux non-juifs, au même titre qu'aux juifs proprement dit. Ce baptême n'a jamais été promis à d'autres. Non, jamais. Le Nouveau Testament montre clairement que d'autres hommes étaient à même de parler en langue et de faire des miracles. Mais il est essentiel de souligner qu'ils n'exerçaient ces dons spirituels que grâce à l'imposition des mains des apôtres qui leur transmettaient ainsi par Dieu une partie des pouvoirs qu'ils avaient eux-mêmes reçus par leur baptême du Saint-Esprit. Paul avait imposé les mains sur 12 hommes qu'il avait baptisés d'eau à Éphèse, et il s'était mis à parler en langue. Il avait également imposé les mains à Timothée de manière à ce que l'Éternel lui accorde un don particulier. L'évangéliste Philippe s'était vu imposer les mains par les apôtres ainsi qu'Étienne, et d'autres diacres d'ailleurs. Et nous retrouvons ce même Philippe, ce même Étienne, faisant des prodiges et des miracles. D'autres hommes se voient encore imposer les mains, par Pierre et Jean, par exemple, comme certains Samaritains, et par Paul, comme divers chrétiens de Rome. Il est toutefois important de remarquer que jamais aucun d'entre eux n'a transmis lui-même le pouvoir miraculeux qu'il avait reçu. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'ils étaient intransmissibles, sauf par les apôtres. En effet, ce sont des apôtres qui doivent aller en Samarie pour imposer les mains à certaines personnes, alors que Philippe et d'autres évangélistes s'y trouvaient. Mais ces derniers étaient absolument incapables de transmettre les dons spirituels qu'ils avaient eux-mêmes reçus par l'imposition des mains des apôtres. Les disciples de Jésus sont morts depuis longtemps. Et après eux, il n'y a plus personne pour le faire. Nous pouvons donc affirmer que le don des langues donné par l'imposition des mains a bel et bien disparu. La semaine prochaine, nous approfondirons considérablement ce sujet que nous n'avons fait jusqu'à présent qu'effleurer.